Non, merci. Merci parce que depuis le commencement, tu es là. Et depuis le commencement, c'est toi qui conduis. Depuis le commencement, c'est toi qui nous interpelle. C'est toi qui viens toucher nos cœurs. C'est toi qui viens toucher nos raisons, nos raisonnements. Et on va te prier pour ensemble, pour Farid ce matin, et te demander que ce qui sort de sa bouche soit ce qui sort de ton cœur, Seigneur. Alors je te demande de nous donner d'être attentifs à ce qui va être partagé et qu'on puisse repartir d'ici avec ce que tu veux dire à chacun d'entre nous. Prends toute la place, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup. Bon, on commence à être chaud sur le livre de l'Exode. On arrive au chapitre 5. On a eu deux chapitres, et là on passe à trois chapitres et plus. Donc vous comprendrez que c'est difficile de condenser, mais c'est ce que j'ai, voilà, j'ai essayé de me laisser conduire en choisissant certaines choses. Si vous voyez que votre frère ou votre sœur pique du nez, le coup de coude ça marche bien entre la côte numéro 3 et... Non, pardon, c'est pas vrai, faites pas ça. Mais voilà, j'espère qu'on va rester ensemble jusqu'au bout et on finira par un temps de prière les uns avec les autres. Hop, j'ai intitulé ce tronçon, et je pense que le tronçon d'après sera un peu semblable, la grâce de Dieu dans ses jugements. On va arriver au jugement de Dieu. Dans les chapitres aujourd'hui et donc dimanche prochain, on va voir Dieu se révéler sa gloire au travers de ses jugements. Dieu est digne de gloire aussi parce qu'il est le juge suprême. Le juste juge qui fait justice et qui obtient justice. Il juge le mal, le punit et fait triompher le bien. Et ça fait partie de sa gloire. Et cela est bon. Je vais faire une longue introduction ce matin. Cela est bon, cela est beau, si vous vous rappelez le message du week-end de rentrée. Ce qui est bon est beau, ce qui est beau est bon dans la Bible. Et cela est glorieux. Si Dieu n'était pas celui qui juge et qui châtie, est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Cela signifierait une forme d'impuissance face au péché, une forme d'injustice face au mal et à son œuvre destructrice. Mais merci Seigneur, parce que tu es le juge juste dans ta gloire et dans ta grâce. Heureusement que Dieu juge et châtie, et nous devrions regarder à cela comme un sujet de grande joie. La destinée de l'humanité, de la création tout entière, est guidée par la seigneurie absolue de Dieu sur son œuvre. Amen. Personne, ça a été prié ce matin, personne ne peut s'opposer ni à qui est Dieu, ni à ce qu'il fait. Rien ni personne ne peut venir contre lui. Et nous allons commencer ce matin en revenant un peu en arrière, parce qu'il n'y avait pas assez de chapitres, donc on revient un petit peu en arrière. Mais je trouve que ça pose aussi le contexte de ce qu'on va parcourir ce matin ensemble. On revient en Exode 4, au verset 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pourquoi je reviens à ce texte ? Parce qu'on va parler des jugements qui vont se dérouler. Les jugements de Dieu contre un roi, Pharaon, et contre un peuple. Et nous pouvons nous demander, et je me suis posé la question, pourquoi 10 plaies ? Peut-être je vous fais poser des questions que vous n'êtes pas posées. Pourquoi 10 plaies ? Pourquoi faire endurer une succession de souffrances et conclure par la dernière qui va enfin faire craquer Pharaon ? Ce texte nous dévoile en avance, celui qu'on vient de lire, que Dieu est le souverain qui règne et qui fait tout ce qu'il veut. Dieu, au fur et à mesure des 9 plaies, va endurcir le cœur de Pharaon et le mener, lui et son peuple, à faire face à la dernière plaie, la mort des premiers-nés. C'est intéressant que ce soit posé dès le départ, avant que Dieu déroule les 10 plaies. Si Dieu... Ce texte, voilà, nous aide à comprendre, je pense, quelque chose d'assez important. On est toujours sur le texte d'avant. Pour la vie du chrétien. Si Dieu met en œuvre la justice au sens strict du terme, nous serions déjà tous morts. À la suite de la désobéissance d'Adam et Ève et de l'entrée du péché dans le cœur de l'humanité, ce qui est bon, ce qui est juste face à l'éternité, c'est que le mal disparaisse, qu'il soit jugé et qu'il soit anéanti. L'humanité étant pervertie, infectée par un appétit pour le mal, la destruction, la mort, il suffit d'allumer les infos et on voit que ça c'est vrai. Cette humanité-là devrait être détruite. Et c'est ce que Dieu rappelle à son peuple et à l'ensemble de l'humanité au travers des jugements que l'on va parcourir et qu'il provoque non seulement dans le livre de l'Exode, mais tout au long de l'histoire. Ça nous conduit où en tant que chrétien ? C'est pour moi. Merci Henri. À ne jamais oublier cela dans notre façon de vivre, pour que cela nous aide à apprécier la grâce de Dieu un peu plus à sa juste valeur. Parfois, on vit en tant que chrétien avec une grâce de Dieu, j'allais dire bon marché ou passe-partout, mais de comprendre que en fait nous devrions être morts et que c'est par sa grâce, si nous sommes vivants, ben ça nous aide à vivre d'une manière qui est différente. Et j'irai même un petit peu plus loin ce matin, c'est que les jugements que nous allons voir, eh bien en fait, sont imprégnés de la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu va quand même préserver la vie au sens large et ne pas tout éradiquer, ce qui serait juste et bon. Ça va ? Je sais que ce n'est pas très réjouissant, mais c'est la réalité. C'est un fait. Alors pourquoi ces 10 plaies ? Une des réponses peut être que le nombre 10 dans l'Écriture symbolise à la fois la totalité et la responsabilité de l'homme. Si Dieu juge, c'est en premier de la responsabilité de l'homme, parce que l'homme a fauté devant Dieu. La succession des 10 plaies nous montre que l'humanité, en la personne de Pharaon, est entièrement responsable de sa destruction. Et que malgré les avertissements successifs, le cœur de l'homme ne peut pas changer. Le cœur de Pharaon, on va le voir, va s'endurcir toujours plus. Romains 3, à partir du verset 10 jusqu'à 16, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ça, c'est le tableau de fond. Et ça n'a pas changé. C'était valable à l'époque de l'Exode et ça l'est toujours aujourd'hui. Les jugements de Dieu vont trouver un point culminant dans les textes qu'on va lire, pas aujourd'hui, mais vous le lirez la prochaine fois, dans la 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés. Dieu sait que la seule chose qui va résonner, dans le sens faire entendre raison, à l'humanité et changer son cœur, c'est le sacrifice du Fils unique de Dieu. La mort du Fils premier-né de la création. Mais ça, vous en parlerez plus dimanche prochain. On peut juste lire dans Éphésiens 2. Mais Dieu qui est riche, versets 4 à 7, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, rappelons-nous, au lieu de détruire l'humanité, il a choisi de l'aimer. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est bon ? Pas besoin de petits coups de coude à celui qui est à côté ? Personne ? Vous êtes toujours là ? Alors on attaque nos textes. Exode 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel ? Pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Le livre de l'Exode est le deuxième livre de la Bible. Avant, il y avait la Genèse. Et Dieu a tout juste commencé de se révéler dans l'Écriture. Et ce texte de Pharaon, cette question pardon, de Pharaon, qui dit « Mais qui est l'Éternel ?» Eh bien, le livre de l'Exode va passer du temps à y répondre. C'est une sorte de fil rouge dans ce livre de l'Exode. Dieu se révèle au monde comme le Seigneur qui juge le monde. Il est Dieu et personne ne peut s'opposer à lui. Et Dieu se révèle aussi à son peuple comme celui aussi qui juge son peuple. Mais plus que ça, qui fait grâce. Et il va y avoir de nombreux dons de grâce tout au long du livre de l'Exode. Il va y avoir le don de la loi, le don du tabernacle, le don de la colonne de feu, de la nuée, etc. Dieu va faire preuve de grâce tout au long de ce livre. Ne connaissant pas Dieu, Pharaon ne lui obéit pas. Au contraire, il va se dresser contre lui, du moins essayer, en alourdissant les corvées du peuple hébreu et en demandant même le fouet pour que le travail soit fait. Le peuple souffre. Il fait appel à Dieu et la réponse immédiatement visible, c'est quoi ? Ceux qui ont fait leur devoir. Qu'est-ce qui se passe au début ? La situation empire. Je répète, le peuple souffre, fait appel à Dieu, et qu'est-ce qui se passe en premier ? C'est pire qu'avant. Exode 5, verset 22. Ce fameux pourquoi qui résonne. Moïse retourna vers l'Éternel et dit : Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Parfois dans nos vies, ça se passe un peu comme ça. Ou exactement comme ça. Nous sommes dans une situation difficile, nous crions à Dieu pour qu'il nous aide et la situation semble empirer. Et nous ne comprenons pas pourquoi, ce fameux pourquoi. À 20 ans, je décide de partir me former pour suivre Jésus. Je quitte mes études. Je me retrouve dans le stress d'une situation sans revenus financiers. Je prie. Et qu'est-ce qui arrive en premier ? Mon père me met à la porte. Pourquoi, Seigneur ? Je prie, c'est censé s'arranger. Autre exemple, je suis un cursus de formation universitaire. Je sais pourquoi je fais ces études-là. Je sais que Dieu m'appelle à devenir enseignant. J'en ai la conviction. Je refuse de poursuivre mes études alors que les profs insistaient pour que j'aille plus loin. Je suis plein de foi, je passe mon concours et je le rate. Je le dis sur un ton léger, mais vous imaginez comment on se sent dans ces moments-là. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi ? Nous pouvons traverser des moments comme cela, tout en étant et en demeurant dans la main du Seigneur. Dans ces moments-là, Dieu nous apprend la patience. Dieu nous apprend la confiance en ses promesses. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris dans ces moments-là. Souvent, on pense que c'est quand on va bien qu'on apprend le plus, mais je pense que c'est plus quand c'est dur qu'on apprend beaucoup. Et c'est ce qu'on va lire dans la suite, Exode 6. 6, Dieu rappelle à son peuple son plan, sa promesse. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Vous vous rappelez ? Qui es-tu ? Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Est-ce que vous avez vu tous ces verbes ? Waouh ! Waouh ! Dieu fait tout ça pendant le temps de patience dans une épreuve. Qu'auriez-vous répondu pendant un temps difficile? Comment votre cœur réagit-il aujourd'hui quand vous faites face à une situation dure, difficile? Est-ce la foi et la confiance en Dieu qui l'emportent dans l'épreuve? Ou alors, réagissons-nous comme le peuple hébreu à ce moment-là? Verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Quand nous traversons un temps difficile, sachons trouver un frère ou une sœur pour prier et rechercher les promesses de Dieu. Je répète, quand nous traversons un temps difficile, sachons trouver un frère ou une sœur pour prier et rechercher les promesses de Dieu. Et quand on a fait cela, on ne s'arrête pas là. Parce que parfois, on a ça. Je vais chercher Henri, il va prier pour moi. Et je repars, mais j'écoute rien de ce qu'il m'a dit. Alors du coup, il faut aussi savoir écouter. Sachons écouter ce que le frère ou la sœur nous dit. Sous-entendu, bien sûr, que ça s'appuie sur la parole de Dieu. Nous n'avons pas toujours besoin de comprendre. Mais nous avons toujours besoin d'écouter. Je répète. Nous n'avons pas toujours besoin de comprendre. Mais nous avons toujours besoin d'écouter. Dans les temps d'épreuve, Dieu va nous délivrer, nous affranchir, nous sauver des situations difficiles. Est-ce que vous écoutez? Dans les temps d'épreuve, Dieu va nous prendre avec lui. Tu écoutes toujours? Dans les temps d'épreuve, Dieu va nous apprendre qui il est. Dans les temps d'épreuve, Dieu va nous faire entrer dans une nouvelle saison. Et dans les temps d'épreuve, Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Je vous invite à relire ces verbes extraordinaires de ce que Dieu fait. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. On continue. Exode 7, versets 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon et à Aaron, ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. » Vous vous rappelez Pharaon qui pose la question. « Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. » Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Beaucoup de choses ici, mais je vais rester sur mon fil rouge. Les jugements de Dieu sont une grâce. Les plaies vont servir à ce que les Égyptiens se rendent compte, connaissent que l'Éternel est le plus grand et que lui seul est Dieu. Au verset 1, il est clair dans l'intention qu'a Dieu de montrer qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu. Il dit à Moïse, « Je te fais Dieu pour Pharaon. » Aujourd'hui, on a du mal parce qu'on ne se rend pas compte. Mais à l'époque de l'Égypte ancienne, Pharaon était l'égal de Dieu. Il était Dieu pour le peuple. Mais Dieu a décidé de démanteler cela. Pharaon est un imposteur. Et un Moïse, c'est-à-dire ce berger venu hors d'Égypte, rappelez-vous, il est parti 40 ans pour s'occuper des moutons, va être plus puissant que le Dieu actuel de l'Égypte et plus puissant que tous les dieux du passé. Ses jugements contre l'Égypte et la libération qui en découle vont servir de repère au peuple de Dieu tout au long de l'Écriture. Est-ce que vous aviez réalisé cela? Et ce jusqu'à maintenant. Ce qui se passe là, dans l'Exode, ça va servir de point de repère pour tout le peuple de Dieu dans toute l'Écriture. Alors, je passe rapidement parce que sinon, j'ai peur d'user votre patience. Mais dans la Torah, c'est-à-dire dans les cinq premiers livres, plutôt dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, si on enlève le livre de l'Exode, ça revient plus de 30 fois. Dans Josué, Roi, Chronique, Néhémie, 25 fois, on se rappelle ce qui s'est passé ici, dans le livre de l'Exode. Dans les prophètes Ésaïe, Jérémie, Osée, plus entre 40 et 50 fois. Dans les psaumes, 20 à 25 fois. Dans le Nouveau Testament, une vingtaine de fois. Notamment dans le livre de l'Apocalypse. En tout, plus de 150 mentions, références à cet épisode de l'Exode dans toute l'Écriture. C'est l'événement le plus rappelé tout au long de l'Écriture. Waouh ! Est-ce que c'est important ? Oui. J'espère que ça nous aide à saisir un peu plus la grâce dans ce qui se passe là. C'est-à-dire le don que Dieu fait. C'est ça la grâce, c'est ce que Dieu donne. Le don que Dieu fait à l'humanité entière au travers de ce qui se passe là en Égypte. On continue. Ça va, vous avez l'air réveillé. Le premier signe, avant d'attaquer les deux premières plaies. On ne va pas faire les 10 aujourd'hui, on s'arrête à la deuxième. Exode 7, versets 10 à 13. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge, son bâton, devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit les autres, leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Un signe comme une dernière sommation avant le début des plaies. Pourquoi un signe avant le début des jugements? Dieu savait ce qui allait se passer. Mais je pense que cela sert à montrer l'infinie patience de Dieu et le fait qu'il avertit avant de frapper. En d'autres termes, Dieu ne prend pas de réel plaisir à déverser les jugements. Je le répète, Dieu ne prend pas de réel plaisir à déverser les jugements. Il le fait par nécessité, nécessité liée à qui il est, un Dieu juste et bon. Le serpent, dans l'Égypte ancienne, c'était le symbole du roi, de la royauté. Et d'ailleurs, on retrouve le serpent sur la couronne de Pharaon. Avec ce signe, Dieu avertit une dernière fois Pharaon pour lui dire « Eh mon gars, tu n'es pas Dieu. » Parce qu'il avait dû certains... Il en était persuadé. C'est l'Éternel qui est Dieu et il n'y a pas d'autre roi supérieur à lui. L'avertissement est clair parce que même si les magiciens changent les bâtons en serpents, ce qui semble conférer une forme de pouvoir à Pharaon, qu'est-ce qui se passe immédiatement? Le serpent de Moïse engloutit les autres serpents. Mais Pharaon n'écoute pas et son cœur s'endurcit encore. Ici, j'aimerais nous laisser un petit encouragement ou un grand encouragement à écouter les paroles ou les signes que Dieu met sur notre chemin. Parfois, on met trop vite de côté quand Dieu nous donne un signe. C'est souvent un avertissement avant de quelque chose, peut-être de pire, qui peut arriver. Sachons écouter, sachons reconnaître. J'ai pris comme exemple l'histoire du Titanic. Est-ce que vous la connaissez? On connaît tous le grand bateau. Petit bateau qui a coulé en 1912. Après son départ d'Angleterre, le 10 avril 1912, le capitaine du bateau avait déjà, avant même son départ, il avait déjà reçu plusieurs avertissements. Il y a des icebergs sur le chemin de l'Atlantique Nord. À bord, les navigateurs ont reçu au moins 6 messages de mise en garde par télégraphe la journée du 14 avril 42, 4 jours plus tard. 1912. Je sais pas pourquoi, je suis dans les années 40. Le capitaine, le pharaon du Titanic, pour garder l'image, n'a pas réduit la vitesse du navire, car il était convaincu d'une chose, c'est que le Titanic était insubmersible. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, il heurta un iceberg, coula, faisant plus de 1500 morts. Les signes que Dieu donne arrivent parfois, même souvent, simplement au travers d'un frère ou d'une sœur. Dieu va utiliser Moïse et Aaron. De quelqu'un qui prie avec toi, ou juste qui te passe un coup de fil. Encore une fois, apprenons à écouter au lieu de nous entêter quand cela ne nous plaît pas. Tu veux acheter une maison, te marier, avoir te marier avec quelqu'un, et ton frère ou ta sœur de confiance n'est pas très chaud pour ça. Voire te dit non, s'y oppose. Ouvre les oreilles de ton cœur. Tu veux déménager, changer de boulot, ou quoi que ce soit d'autre dans ta vie, mais ton frère ou ta sœur pense que ce n'est pas une bonne idée. Écoute et n'endurcis pas ton cœur. Ne laisse pas le Titanic de ta vie sombrer et faire de gros dégâts que tu aurais pu éviter. Pharaon, lui, s'entête. Et arrive ce qui devait arriver. Ce qui devait arriver. Je crois que je suis fatigué. C'est le début des plaies. Je vais boire. Bon, au moins ça vous fait rire. C'est presque fini. Quand on dit ça, en général, c'est qu'on a bien 10 minutes. Hein. Exode 7, 19 à 22. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et sur leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte. » Dans les vases de bois, dans les vases de pierre. Et donc, arrive ce qui arrive, l'eau est changée en sang, les poissons meurent, les magiciens en font autant, il nous est dit. Alors, le autant est très relatif, parce qu'il ne restait quasiment plus d'eau. Hein. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Dieu touche par la première plaie le Nil, ce fleuve qui abreuvait toute l'Égypte et qui était considéré comme divin. Un petit peu de culture ce matin. Les récits égyptiens racontent qu'Osiris, le premier roi d'Égypte, fut tué puis démembré par son frère Seth. Puis Isis, l'épouse d'Osiris, reconstitua son corps et ce dernier reprit vie. Vous pouvez trouver ces récits dans le livre des morts de l'Égypte ancienne. La crue annuelle du Nil qui dépose le limon et qui permet de fertiliser la terre et de la rendre féconde, symbolise cette résurrection d'Osiris. L'eau qui coule dans le Nil serait, d'après ces textes antiques, le sang d'Osiris. Dieu attaque le vif du sujet, dès la première plaie. Les fausses croyances de l'Égypte sont prises à la gorge, j'allais dire. Il change l'eau du Nil en sang. Plus de fertilité, les poissons meurent. Personne ne peut plus boire. Le Nil devient, au lieu d'être le lieu de la résurrection, il devient le lieu de la mort. Et les dieux égyptiens n'y peuvent rien. Alors, il y a certains théologiens qui s'amusent en disant « Oui, là, il attaque tel dieu, mais en fait, Dieu attaque une flopée de dieux en même temps. On peut en citer quelques-uns, Koum, Api, Thoré, Sobek et bien sûr Osiris. Après sa mort, Osiris était considéré aussi comme le roi des morts. Et c'est pour ça que tout pharaon qui meurt est momifié pour devenir comme Osiris et vivre éternellement. Petit brain culture. mais ça nous aide à comprendre pourquoi Dieu touche le Nil. D'accord ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dès la première plaie, alors qu'il vient juste de donner une sommation ? Il attaque fort. Il veut choquer. Il veut réveiller Pharaon dès la première plaie. D'ailleurs, les deux premières plaies, même le peuple d'Israël n'en est pas préservé. Eux aussi vont devoir patienter 7 jours avec les deux premières plaies. En tout cas avec l'eau changée en sang. Les magiciens tentent de résister en changeant peut-être les dernières petites coupelles qui restaient dans le palais, probablement en ajoutant un colorant rouge. Et qu'est-ce qu'on y voit là ? Waouh, un grand miracle ? Ben non, plutôt une ironie. Parce qu'en voulant montrer leur force et s'opposer à la puissance de Dieu, ben que fait Pharaon ? Il accentue le dessein de Dieu en contaminant les quelques gouttes qui restaient par-ci, par-là. Le cœur de Pharaon s'endurcit pourtant. Il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Et c'est ce que on vit parfois dans le monde aujourd'hui. Pharaon est ce symbole du monde. Dieu parfois parle fort et pourtant le cœur s'endurcit et n'écoute pas. On finit avec la deuxième plaie. L'Éternel dit, Exode 8, versets 5 à 8, « L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Deuxième plaie, les grenouilles. Les magiciens en firent autant, mais à la fin, Pharaon supplie Moïse et Aaron de prier l'Éternel pour que les grenouilles s'en aillent, parce que les magiciens ont pu les faire monter, mais certainement pas les faire redescendre. Et là, le verset 8 finit avec Pharaon qui dit « Je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Avec la deuxième plaie, Dieu s'en prend à Ekhet, qui était la déesse des grenouilles, et de l'accouchement, de la fertilité. Il faut savoir que les grenouilles étaient associées dans l'Égypte ancienne à une espèce de lac, d'étendue d'eau originelle, d'où provient toute forme de vie. En gros, Dieu s'attaque, encore une fois, attaque fort. D'accord ? On peut, en lisant la succession des plaies, on peut se dire, bon, il y va tranquille quand même. Il, avec l'eau, après avec les grenouilles, après on verra avec les poux, etc. Mais non, en fait, à chaque plaie, Dieu y va fort. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à réveiller le cœur de Pharaon et de l'Égypte. Encore ici, les magiciens servirent le plan de Dieu en faisant monter encore plus de grenouilles, encore une ironie. Mais ils n'ont pas pu les renvoyer, ils étaient impuissants. Dans sa pédagogie, Dieu ne cesse d'avertir. C'est l'Éternel qui est le Dieu tout-puissant. Les dieux égyptiens ne peuvent rien. Pharaon lui-même ne peut rien faire. Et on a l'impression que cette deuxième plaie va faire craquer Pharaon. D'accord ? Je laisserai aller le peuple. On a l'impression qu'il y a une brèche là qui a été formée. C'est bien la preuve que Dieu tape fort. D'accord ? On voit l'image de la grenouille qui est un petit animal, mais Dieu tape très fort. Et il y a une petite brèche, mais au verset 11, Pharaon va refermer immédiatement cette brèche et il nous est dit à nouveau qu'il endurcit son cœur et il n'écouta point Dieu. En conclusion du passage de ce matin, alors que la justice de Dieu aurait pu être d'anéantir toute forme de mal, incluant l'humanité tout entière, Dieu a choisi de faire resplendir la gloire de sa grâce dans le siècle présent, en manifestant la patience qui mènera à quoi ? Au sacrifice du Fils de Dieu et plus tard à son retour. Par essence, les jugements de Dieu ne sont pas uniquement justice, mais ils sont aussi un moyen de grâce et de salut. J'espère nous avoir aidés à voir cela ce matin. Alors, quelles applications ? Et on va finir par un petit moment de prière, si vous êtes d'accord. On va prendre 5-10 minutes de plus. Pour notre vie. À quelle source est-ce que je bois dans ma vie ? Est-ce que je bois à celle du Nil ? C'est-à-dire, est-ce que je bois à ce que le monde me donne ? Penses-tu que la vie, selon la pensée du monde, va t'apporter ce que tu recherches, bonheur, prospérité, fécondité ? Ou bois-tu à l'eau que Jésus te donne à boire ? Viens-tu vers ce seul et unique Dieu de qui jaillit cette eau qui t'emmènera jusque dans la vie éternelle ? Et je voudrais juste commencer par prier si certaines personnes au milieu de nous n'ont jamais bu à cette eau qui s'appelle Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas le Seigneur encore, ou si vous le connaissiez par le passé et que vous revenez à lui, j'aimerais juste nous inviter à fermer les yeux et je vais prendre quelques secondes pour prier. Père, merci parce que ce matin, Seigneur, tu viens chercher ceux qui sont à toi. Tu viens prendre, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, nous te les apportons et nous te demandons de toucher leur cœur, Seigneur. Que ce matin soit ce signe, Seigneur, d'avertissement, Seigneur, que tu viennes les attraper, que tu viennes par ton amour et par le don de Jésus-Christ les transporter auprès de toi. Père, je prie que tu déverses ton esprit dans ceux et celles qui ont ce désir de vouloir te connaître et que tu te révèles pleinement, que à cette question « Qui est l'Éternel ?» que ce matin, tu puisses y répondre, Seigneur, et que ça devienne une certitude, une vérité dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ta grâce, Seigneur, fasse son œuvre. Amen. Deuxième temps de prière, c'est « Comment réagis-tu face aux grandes difficultés de la vie, ou petites parfois. Comme Pharaon, tu endurcis ton cœur, tu n'arrives pas à comprendre ce qui est en train de se passer, tu te mens à toi-même. Pharaon se mentait à lui-même, il se persuadait qu'il était Dieu. Tu t'entêtes à considérer que c'est toi le chef de ta vie. Parfois, c'est ce qui se passe. Que c'est toi qui peux tout décider, comme toi tu as envie que ta vie se déroule. Ou alors, tu as une réponse comme Moïse. Tu parles à Dieu. Oui, tu es pleine d'incompréhension. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Mais au lieu d'endurcir ton cœur, tu capitules et tu le laisses diriger ta vie. Alors oui, il va peut-être te conduire là où tu ne veux pas être, ce que tu essayes toujours d'éviter, dans les endroits qui n'ont pas l'air fun ou prospères. C'est là où Moïse il avait été conduit, dans le désert. Mais je crois que ce matin, Dieu nous appelle à avoir cette même réponse que Moïse, à capituler face à lui, à ne pas vouloir coûte que coûte tenir les rênes de notre vie, mais à les lâcher et à dire, Seigneur, c'est toi qui diriges et j'irai là où tu me diras d'aller. Juste nous inviter à prier si on est dans ce moment-là, ou vous inviter à prier pour quelqu'un que vous connaissez qui est dans ce moment-là. Père, c'est pas toujours simple de se retrouver dans la difficulté, Seigneur. Et oui, nos cœurs humains, Seigneur, sont pleins de ce pourquoi, Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai été plus méchant qu'un tel ou qu'un autre? Mais Seigneur, ce matin, on veut abandonner tous ces pourquoi, Seigneur. On ne veut pas se mentir à soi-même, Seigneur, en gardant en pensée que si je maintiens tout par ma force, alors ça va aller mieux. Je vais pouvoir traverser ce temps difficile. Seigneur, on veut que tu nous aides à avoir le même cœur que Moïse, Seigneur, à capituler devant toi, Seigneur, à nous laisser conduire là où tu veux nous emmener, Seigneur, même si c'est dans le désert, même si c'est dans un endroit où on n'a surtout pas envie d'aller, Seigneur. On veut capituler, Seigneur, parce que, comme on l'a chanté ce matin, c'est quand nous sommes faibles que nous devenons forts. C'est quand nous sommes pauvres que tu nous rends riches, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à faire ces bons choix. Aie pitié, Seigneur, de nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Donne-nous la patience dont nous avons besoin, Seigneur, pour ne pas que notre cœur ne se dresse contre toi, Seigneur, et ne s'endurcisse, mais au contraire, pour que nous recherchions toujours plus ta volonté, Seigneur, ta houlette dans notre vie. Amen. Et le dernier point, c'est le dernier promis. Es-tu à l'écoute? Es-tu à l'écoute? On l'a lu dans les textes. Pharaon n'écouta pas. Es-tu à l'écoute de tes frères et de tes sœurs? Ouais, moi j'écoute Dieu. C'est pas ma question ce matin. Es-tu à l'écoute de tes frères et de tes sœurs? Et je suis avec vous là, hein. Je ne me place pas en haut de la chair, je suis en bas avec vous bien sûr. Est-ce que mon caractère est comme celui de Pharaon qui n'écoute pas les conseils ou les recommandations? Est-ce qu'il est comme ce capitaine du Titanic qui n'écoute pas, qui pense que moi, ma vie, Elle est insubmersible. Il n'y a rien qui va la faire dérouter. Ou alors, est-ce que je développe une façon de vivre où je me laisse conseiller, où je cherche même de tout mon cœur le conseil de mes frères et de mes sœurs. On va prier pour ça, pour ceux qui le souhaitent. Seigneur, merci parce que tu nous as placés dans une communauté, tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur, et on y voit bien là ta sagesse. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle est jonchée de choses qu'on a préparées, Seigneur, parfois, mais jonchée de choses que l'on n'a pas prévues, Seigneur, que l'on n'a pas désirées. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à développer encore plus nos relations avec nos frères et sœurs, Seigneur. Une relation de confiance et une relation d'écoute. Ce matin, je veux te demander pardon, Seigneur. Si dans mon cœur, j'ai dit « Ah non, je ne veux pas l'écouter lui, je ne veux pas l'écouter elle, je veux poursuivre dans ce que moi je décide. » Pardon pour ce cœur, Seigneur, hautain, quelque part, orgueilleux. Pour ce cœur qui cherche l'indépendance et l'autonomie plutôt que la communion fraternelle, l'écoute et la soumission, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à être sous cette protection de la communauté. Apprends-nous à être au bénéfice de la sagesse de mon frère, de ma sœur. Merci parce que c'est un vrai don, une vraie grâce, Seigneur, dans nos vies. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.